Voilà, bonsoir et bienvenue à cette soirée organisée conjointement par les départements d'éthique publique, d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, rediffusée par la radio RCF, animée par le bon journal La Croix et aussi coordonnée par la revue Études, sur un sujet d'une grande actualité, à mon sens, que nous avons intitulé Pénurie d'infirmières, lits fermés à l'hôpital, quel diagnostic, quel remède? Je suis Bruno Saintot, jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres, et je suis particulièrement motivé par le sujet de cette soirée. En effet, si le manque de personnel infirmier a connu d'autres manifestations dans l'histoire, il atteint depuis des mois un niveau particulièrement préoccupant, avec des conséquences lourdes pour les personnes soignées que nous sommes ou que nous pourrions être, et pour les soignants eux-mêmes. Certes, les signaux étaient là depuis des mois, mais ils n'étaient pas perçus par le grand public jusqu'à il y a quelques semaines seulement. Le 31 août 2021, Marion Brouck, infirmière de soins palliatifs, ici présente, faisait paraître dans le journal La Croix une chronique intitulée Qui prendra soin de vous si personne ne prend soin des soignants? Elle commençait par ce constat alarmiste, pertinent. Les soignants vont de plus en plus mal, dans une indifférence quasi générale que la société risque de bientôt regretter. Vous aviez, me semble-t-il, doublement raison, madame. L'indifférence était quasi générale et nous commençons effectivement à le regretter. Vous terminiez sur cet appel. Il est urgent de considérer les soignants comme les piliers de l'hôpital, et non de simples pions au service de la rentabilité. Nous voici donc dans une forme d'urgence et de crise. D'autres grands quotidiens que le journal La Croix se sont enfin emparés de la question depuis fin octobre. Les titres sont provocateurs. Pour la seule journée, j'ai pris une seule journée, celle du 27 octobre 2021, pas longtemps, 27 octobre. 20% de lits fermés. L'hôpital public au stade critique. Libération, absentéisme, burn-out, démission à l'hôpital, la situation n'a jamais été aussi catastrophique. Le Figaro. Difficulté à recruter, absentéisme et démission, les raisons de la fermeture de plus de 5 700 lits à l'hôpital, selon le gouvernement. Le Monde. Cette brusque prise de conscience publique, alors même que les signaux d'alarme avaient été émis depuis longtemps par les soignants, a été déclenchée notamment par un avis du Conseil scientifique Covid-19 daté du 5 octobre. Je le cite. Des données concordantes recueillies auprès des grandes structures hospitalières du pays, dans les plus grandes régions françaises, sont concordantes. Elles font état. 1. Un grand nombre d'emplois vacants, avec notamment 5 professions en tension. Infirmières, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, manipulateurs de radiologie, masseurs-kinésithérapeutes. 2. Un recours déjà important et en augmentation aux heures supplémentaires et à l'intérim, avec malgré tout un pourcentage important de lits fermés à environ 20%, touchant tous les secteurs du soin. Sur ce constat, et comme pour une maladie grave, nous pourrions nous poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour les soignants et les soignés? Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Quels sont les éléments les plus pertinents du diagnostic de situation? Y a-t-il des solutions ou des pistes de solutions pour porter remède à cette pénurie de soignants et à ces fatigues profondes des soignants? Certes, la crise n'est pas spécifiquement française, comme l'indique la note d'orientation du Conseil international des infirmières de mars 2021, qui fait état d'une pénurie mondiale du personnel infirmier. Mais nous pouvons poser cette question en France dans l'héritage du projet solidaire du soin mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Qu'allons-nous faire collectivement de ce projet de solidarité à l'occasion des élections présidentielles, par exemple? Quelle place du soin pour tous dans un projet de société solidaire? Quelle forme nouvelle de reconnaissance et de soutien pour les soignants? Quelle place du service public? Autant de questions. Il n'y en aura d'autres. Pour y répondre ou commencer à y répondre, nous avons la joie d'accueillir Marion Brook, Marc Guyoz et Raphaël Lagarde. Merci beaucoup de votre investissement dans le soin, de votre témoignage et de votre réflexion. Je laisse le soin à Nicolas Senez, journaliste à La Croix, d'animer le débat, de présenter les intervenants, et je lui passe la parole. Merci beaucoup à vous.
Bonsoir, merci beaucoup Bruno Sainteau. Donc pour approfondir ce sujet de la pénurie d'infirmières et de la fermeture de lits à l'hôpital, trois invités. Marc Guyoz, d'abord, vous êtes psychologue clinicien, diplômé de Paris 8 et chargé de cours à Paris-Sorbonne. Vous avez aussi un cabinet de consultation, vous êtes formateur et surtout, je crois, une grande partie de votre temps, c'est la supervision de professionnels du soin dans des institutions sanitaires et sociales. À votre gauche, Raphaël Lagarde, donc vous êtes infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Pontoise et président du conseil régional de l'Ordre des infirmiers d'Île-de-France. Une région particulièrement importante avec le nombre de centres hospitaliers et la PHP. Et puis Marion Brook qui réagira à vos interventions et puis qui débattra avec vous, donc qui est infirmière en équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et qui est en même temps titulaire d'un master de recherche en médecine palliative et last but not least, qui est chroniqueuse au supplément Sciences et Éthique de La Croix. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Je passe la parole tout de suite à Marc Guyoz, qui, justement par son travail de supervision de professionnels, est aussi un bon connaisseur des difficultés vécues par le monde infirmier.
Merci. Donc, en effet, j'enlève peut-être le masque. Je suis amené depuis une vingtaine d'années à accompagner sous forme de soutien psychologique un grand nombre d'équipes professionnelles, essentiellement dans le monde du sanitaire, mais également dans le médico-social et dans le juridique. Soutien qui prend la forme de groupes d'analyse des pratiques, les GAP, de groupes de parole ou encore d'analyse institutionnelle lorsque l'institution est en crise. Jusque-là, j'observais certaines formes de souffrance psychologique d'expression récurrente au sein de ces équipes. En 2018, dans un texte intitulé « De la crise au malaise dans les institutions », j'ai tenté de rendre compte de ces difficultés maintes fois énoncées qui conduisaient à des crises au sein d'un service quand ce n'était pas dans l'institution, dans son ensemble. Plaintes, invectives, dépression, burn-out, toute une panoplie d'expressions de malaise et de mal-être qui se disent couramment. Des signes que l'on appelle également RPS, les risques psychosociaux, qui poussent un peu partout. De nombreux écrits relatent le burn-out endémique des soignants, mais je souhaiterais attirer l'attention également sur la souffrance des médecins, qui se dit moins, et je veux attirer l'attention là-dessus. Dès 2019, une revue de santé publique faisait état du burn-out chez les internes. La même année, une thèse du risque suicidaire chez des médecins. Une enquête en France a montré une incidence de suicide de 14% dans cette population, contre 5,4% dans la population générale de la même tranche d'âge, c'est-à-dire équivalent à peu près aux agriculteurs. En septembre 2021, l'OMS avertit que la pandémie de Covid-19 accroît les facteurs de risque de suicide. Toujours en 2021, nous voyons apparaître une littérature abondante sur ces thématiques du burn-out et du risque de suicide chez les paramédicaux et les médecins. L'étude Amadeus, lancée en mai 2021, sera la première étude en France à évaluer précisément la prévalence du burn-out dans les professions paramédicales et médicales. La crise sanitaire du Covid a fait apparaître d'autres expressions de souffrance au sein de ces équipes soignantes. Je vous recommande par ailleurs l'excellent livre du docteur Marine Saoudi-Zarne, En première ligne du Covid, lettre du front, qui relate de l'intérieur, depuis un hôpital de la PHP, le vécu intime des soignants qui ont œuvré pendant ces 18 mois de lutte contre ce Covid. Mon observation directe du terrain, dès le premier confinement, m'a donné à voir, outre les signes d'épuisement psychique, une symptomatologie qui indiquait des états de stress post-traumatique chez de nombreux soignants. Manifestations dites de dissociation psychotraumatique, je pourrais expliquer, où apparaissaient des états crépusculaires. État crépusculaire où la personne se voit comme un robot, étant en pleine activité, ne pouvant plus penser. Lorsque quelqu'un lui parle, elle a besoin de remobiliser son énergie pour finalement écouter la personne qui lui dit quelque chose. Elle travaille de façon mécanique, sans plus du tout pouvoir faire état de ses sentiments, de ses pensées. État crépusculaire, mais également état de dépersonnalisation. J'ai entendu des descriptions me disant « j'étais comme un point au-dessus de moi, je me voyais travailler. Toute la journée, j'étais ce point et je me voyais travailler, je ne voyais plus personne, j'avais des actes automatiques. Et puis je partais seul parce qu'on ne se voyait que très peu pendant ce Covid. On était habillés avec nos combinaisons, quand ce n'était pas avec des sacs poubelles. Et il me fallait ensuite 10 minutes entre chaque personne pour pouvoir remplacer ma consoeur. Donc je voyais que très peu de monde, je repartais chez moi, j'étais toujours ce point. Il me fallait alors parler au téléphone ou par visioconférence à quelqu'un de ma famille pour de nouveau m'incarner. Je me sentais à l'extérieur de mon corps. Ce type de, finalement, ce type de confidence que j'ai pu entendre des soignants, je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Ce sont des expressions qui sont revenues de façon récurrente. Évidemment, état crépusculaire, dépersonnalisation qui tentait de lutter contre l'angoisse de mort, qui permettait de, je cite les soignants, supporter l'insupportable. Ces aspects dissociatifs psychotraumatiques chez les soignants favorisés, selon moi, par une trop grande utilisation de mécanismes de défense par clivage qui se sont mis en place pour lutter contre l'angoisse de mort omniprésente, à trop cliver, on se dissocie, on éclate, on s'éparpille et on ne s'entend plus dans tous les sens du terme. Et cette mésentente dans tous les sens du terme est actuellement extrêmement présente. Présente au sein des services, mais plus encore, ce clivage est plus encore présent entre les soignants et, disons-le, les cadres ou plus exactement l'administration. C'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. J'en dirai un mot lorsque j'essaierai de proposer peut-être quelque chose qui serait de l'ordre du remède. Somme toute, ce que j'observais là n'était autre que ce qui avait été décrit, finalement, en février 2020, par l'équipe du docteur Samantha Brooks de l'Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King's College de Londres. Son équipe a analysé 24 études scientifiques réalisées dans 11 pays depuis 2003, portant sur des personnes atteintes du syndrome respiratoire aigu, le SRAS, enfin différentes crises sanitaires, dans lesquelles il y avait une quarantaine. Finalement, ces scientifiques ont non seulement identifié des conséquences psychologiques de ces quarantaines avec des facteurs graves, mais ces scientifiques ont également prodigué des conseils. Et cette étude a été publiée dans le Lancet en mars 2020, c'est-à-dire avant même le confinement. Dans cette étude, vous pouviez lire que les méfaits d'une mise en quarantaine sont globalement des symptômes de stress post-traumatique, j'en ai fait état, de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité, de la colère, des violences domestiques, on l'a vu, et ainsi que confusion, peur, augmentation des addictions, on en a beaucoup parlé également dans les médias, insomnie, ça a duré longtemps, et enfin, des formes de stigmatisation, d'ostracisation et des angoisses paranoïdes qui font le lit des théories du complot. Alors, toujours dans cette étude, il était précisé, et je l'encadre, que toutes les personnes souffrant de troubles psychiatriques, mais également celles travaillant dans le domaine de la santé, ces personnes sont les plus vulnérables et elles nécessitent un suivi particulier. Février 2020. Alors, je ne veux pas être trop long, quel remède ? Finalement, quel remède ? J'ai essayé de tenir un discours avec une certaine terminologie qui soit un petit peu intelligible par tous. Mais moi, je fais référence vraiment au professeur Légeron qui, dès 2008, suite à une étude, européenne portant sur 200 000 personnes, enfin, c'était énorme, hein, qui a pu montrer qu'en Europe, en effet, le stress est une des causes majeures de maladies, de mal-être, et qu'il fallait absolument lutter, hein, et avoir une politique de lutte contre ce stress. Alors évidemment, en 2008, l'État a essayé de mettre en place ce type de politique, mais elle n'est absolument pas suivie de fait. Aucune entreprise, hein, ne prend vraiment en compte cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose d'abord un axe évaluatif. Il faut évaluer le stress. Et évaluer le stress, ce n'est pas uniquement avec un petit papier dans lequel on va remplir une échelle de stress. Non, c'est faire parler les personnes, c'est comprendre quel est réellement le travail qu'elles ont à effectuer, quelle est la pénibilité de ce travail, c'est-à-dire prendre du temps. Les entreprises ne mettent pas d'argent là-dedans. Il leur suffit juste un petit papier, ça leur suffit. Ce temps, ils ne le prennent pas. Ça coûte, paraît-il, trop cher. L'axe organisationnel, il faut effectivement, dans l'axe organisationnel, et là, c'est quelque chose d'extrêmement important, lorsqu'on organise un service, il faudrait tout de suite y adjoindre une politique anti-stress. C'est-à-dire prévoir que cette nouvelle organisation va créer du stress, et non pas se dire « ils vont s'adapter ». C'est ce que la plupart des gens se disent, « ils vont s'adapter ». On change, on demande aux gens finalement de remplir des tas de fichiers dans des ordinateurs, ils vont s'adapter. On met des nouvelles obligations pour les soignants, ils vont s'adapter. Mais non, l'adaptation à un moment finit par rompre. Il y a de la rupture dans l'adaptation. On ne peut pas s'adapter à tout. Il faut aider cette adaptation. Et là, c'est l'axe managérial. L'axe managérial est vraiment l'axe essentiel de cette politique qui traite du stress. C'est-à-dire qu'il faut former les managers. Les managers ne connaissent rien au stress. Ils n'en tiennent absolument pas compte. Ils ont un management qui est un management mathématique, un management de chiffres. Il faut remplir des cases. Mais malheureusement, absolument pas l'aspect individuel. Enfin, pour terminer, justement, cet axe individuel, mais surtout, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement actuel, il faut réduire en ce moment le clivage comme on réduirait une fracture. Clivage qui a été amené en particulier, mais qui était déjà là, hein, amené effectivement par cette crise sanitaire et qui envahit toutes les institutions. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc Guillaume. Je passe la parole donc maintenant à Raphaël Lagarde, président du Conseil régional de l'Ordre des infirmiers d'Île-de-France. Comment, sans doute avec un constat qui va être assez similaire, avec peut-être plus aussi de terrain, de ce que vous voyez auprès de vos collègues dans la région.
Bonjour. Je vais vous faire d'abord un état des lieux de ce que l'Ordre a ressenti surtout depuis les 2 ans époque Covid. Depuis le début du Covid, l'Ordre s'efforce d'accompagner les soignants. Et pour ce faire, on a mené différentes études qui montrent bien que d'un côté, le soignant est fier de ce qu'il fait. Il pense qu'il a un rôle essentiel, qu'il s'épanouit dans sa profession, dans quasiment 80% des cas pour chacun des 3 items que j'ai cités. Mais malheureusement, de l'autre côté, je dirais, il y a 64% du professionnel interrogé qui pense que la profession est une profession ingrate, non reconnue, voire il y en a 40% qui pensent n'être plus infirmier dans les 5 ans qui arrivent, ce qui est malheureusement très grave. Deuxième constat que nous reprenons, c'est l'étude de l'adresse qui a été faite il y a 6 mois, début d'année 2021, dans le premier trimestre, qui met en évidence que pour arriver à prendre en charge la population française à l'horizon de l'année 2040, il faudra 250 000 infirmiers supplémentaires, alors que nous sommes 750 000 actuellement. Ce qui représente pour 2040 un million d'infirmiers. Or, actuellement, on est plus vers le côté versant, c'est-à-dire sortie des infirmiers. On en perd à peu près 50 000 par an. Donc, grave constat. Constat autre, je reprends les mêmes que mon prédécesseur. le burn-out, l'usure professionnelle, la non-reconnaissance sociétale, tant financière, ça je vais juste dire quelques mots parce que c'est pas le domaine de compétence et l'émission de l'ordre, mais je vais quand même signaler qu'actuellement l'OCDE a montré que le salaire moyen d'un infirmier français c'est 2070 euros par mois net. On est au 26e rang sur 29 dans l'OCDE. Avec la revalorisation dite du Ségur, qui représente 180 euros, on va passer à la 18e place. Et dans 3 ans, quand il y aura les nouvelles grilles salariales, on devrait passer à la 11e. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, comme l'a dit mes collègues et prédécesseurs, mais aussi la reconnaissance sociétale et l'évolution de sa profession et de sa carrière. Représentation sociétale qui est, on va dire, manquante, dégradante. On a été très fiers et on vous remercie de nous avoir soutenus à 20h pendant certains mois, mais on voudrait bien que cette reconnaissance ne disparaisse pas aussi vite qu'elle est arrivée. Deuxièmement, au niveau légal et réglementaire, l'ordre est plus de 90% des infirmiers qu'on a interrogés au cours de nos deux dernières enquêtes, en 2020 et en 2021, pensent que la profession doit évoluer au travers d'une évolution de son décret dit d'acte actuellement. Monsieur Véran, notre ministre de Santé, a mis son accord en février puis en avril de cette année. Mais malheureusement, actuellement, suite à la discussion de la loi sur le financement de la sécurité sociale et d'autres textes réglementaires, on ne voit aucune évolution, alors que l'organisme que se représente, l'Ordre d'infirmiers, suggère qu'il faut passer d'un décret DAC vers un décret dit de compétence, nous permettant une meilleure autonomie, la mise en place et la reconnaissance des soins relationnels, favoriser l'action des infirmiers dans les parcours de soins et renforcer tout ce qui est le rôle de prévention, d'éducation thérapeutique de l'infirmier et reconnaître ses actes techniques aussi. Nous ne sommes pas seulement des exécutants d'un médecin, nous prenons le temps d'accompagner les personnes soignées et ça, il n'y a aucune revalorisation et reconnaissance de ses actes. Merci.
Merci beaucoup. Alors, Marion Brooke, comment vous vous retrouvez dans les deux choses qu'on a décrites ? C'est en préparant cette émission, vous m'avez confié que vous faisiez justement partie de ces infirmiers qui s'interrogent en tout cas sur leur avenir au sein de la profession.
Merci de me donner la parole et merci à tous les deux pour vos constats respectifs. Moi, effectivement, je fais partie de ces soignants sortants par épuisement. Et cet épuisement est vraiment multifactoriel et a été accentué par la crise sanitaire. En fait, la crise sanitaire, ça a été un point d'orgue de quelque chose de préexistant et d'un mal beaucoup plus profond. Enfin, c'était vraiment un point de bascule où j'ai vu, donc je ne passe pas une semaine au travail sans voir une, deux, trois ou quatre collègues démissionner, ce qui était encore jamais arrivé à l'hôpital public. Donc il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui font des demandes de mise en disponibilité pour aller vers d'autres horizons et des reconversions professionnelles, des gens de qui j'ai des nouvelles qui sont effectivement plus épanouis ailleurs avec une meilleure reconnaissance salariale dans des professions pourtant qu'on pourrait imaginer comme moins payées. Donc moi, ce que je trouve vraiment très très compliqué, ça a été dit là précédemment, mais c'est d'une part le manque de reconnaissance pour la profession qui, monsieur le disait très bien tout à l'heure, sur le fait qu'on soit qualifié comme quelque part des exécutants. Et on voit quand il y a une nouvelle profession qui essaye désespérément d'émerger en France et qui n'y arrive pas, c'est les infirmières de pratique avancée, qui sont donc des infirmières qui ont développé une expertise dans un domaine extrêmement précis, par exemple en oncologie, en psychiatrie, ou ailleurs, et qui finalement se voit. Enfin, c'est quelque chose qui existe déjà au Canada depuis une vingtaine d'années, qui existe aux États-Unis depuis 40 ans. Et en France, on n'a toujours pas d'infirmier de pratique avancée. Donc, on ne reconnaît pas l'expertise infirmière comme une expertise en tant que telle. Et donc, on parlait tout à l'heure de reconnaissance sociétale, mais avant tout, est-ce qu'il n'y a pas simplement une reconnaissance en interne à avoir à l'hôpital, notamment auprès de nos collègues médecins ? Donc ça, c'est une des premières choses sur le manque de reconnaissance de la profession. Finalement, on nous demande de rester à notre place. Il n'y a pas de filière universitaire complète pour les infirmiers. Il n'y a pas de doctorat en sciences infirmières en France, alors qu'il y en a en Suisse, il y en a au Canada et ailleurs. Donc ça, c'est déjà un premier point qui fait que c'est difficile de fidéliser les professionnels qui ont envie d'aller plus loin. Et puis après, il y a la question évidemment du surmenage, puisque là, avec toutes les démissions en chaîne qu'on observe à l'hôpital depuis quelques semaines, quelques mois, plus exactement, on a des gens donc, qui travaillent avec des horaires, des soignants qui travaillent avec des horaires très flexibles, des heures supplémentaires qui ne sont pas prises en compte, puisqu'on en fait beaucoup d'informels, un travail à la chaîne et au final, une perte de sens pour les soignants qui sont encore en poste, avec une charge extrêmement lourde qui leur revient sur les épaules, puisqu'il y a plus, il y a beaucoup de collègues qui sont partis de l'hôpital. Donc on voit des intérimaires, et même les intérimaires, ça devient de plus en plus compliqué à trouver, puisque tous les hôpitaux cherchent des intérimaires, donc même les intérimaires deviennent manquants au bout d'un moment. Et puis la question salariale, qui pour moi est essentielle, on est payé 5% environ de moins que le salaire moyen national. Je trouve que quand même c'est non négligeable. En Espagne, les infirmières sont payées 30% de plus que nous. Ne parlons pas de la Suisse ou du Luxembourg, où là, elles sont payées, j'ai envie de dire, elles sont payées à hauteur de leurs compétences, finalement, simplement. Ici, en France aussi, tout ce qui est formation, enseignement, recherche paramédicale, il n'y a aucune reconnaissance non plus à ce niveau-là. Et en fait, il y a beaucoup, toutes les infirmières qui souhaitent faire de la recherche le font essentiellement sur temps personnel, avec peu de flexibilité de la part de l'hôpital. Donc, je suis très en accord avec tout ce qui a été dit précédemment et je fais ce constat alarmant également. Et donc, quand on a le gouvernement qui nous dit que, suite à l'article qui a été publié dans Libération, me semble-t-il, sur justement les soignants qui démissionnent, et quand on nous répond qu'on va chercher à comprendre et faire une enquête et qu'on va aller demander aux infirmières qui ont quitté l'hôpital pourquoi elles ont quitté l'hôpital, moi, je trouve que c'est un mépris absolu pour notre profession, puisque ce n'est pas faute de l'avoir dit depuis des mois, des années, puisqu'on était en grève déjà en 2019, avant la crise sanitaire, pour dire qu'on travaillait dans des conditions épouvantables et qu'il n'y a pas eu de prise en considération de toutes nos actions. Donc, chercher à comprendre, je veux bien, mais c'est un peu difficile à entendre. Finalement, ce qu'on observe tous à nos échelles respectives, c'est que les patients et les soignants ne sont absolument plus au centre des préoccupations de la haute administration. Et finalement, dans cette administration-là, il n'y a pas de soignants. Et il faudrait peut-être qu'on leur pose la question à eux, comment ils imaginent l'hôpital de demain et quel est leur bilan et quelles sont leurs propositions. Et je pense qu'il y en aurait énormément. Donc première réaction que je peux témoigner.
Si je comprends bien, c'est le Covid n'a été qu'un révélateur de quelque chose de bien plus profond qui était là depuis plusieurs années, mais qui, à l'occasion de la crise et de la tension supplémentaire, est venu finalement faire casser une corde qui était déjà extrêmement tendue.
Oui. Je ne sais pas si je suis mieux placé pour le dire, mais oui, absolument. Jusque-là, alors j'ai parlé d'un certain nombre de manifestations vraiment qui sont sorties directement après le Covid, enfin en tout cas après les confinements. Cette situation de clivage dont je parlais, elle était déjà présente. Cette situation, en effet, Marion, en fait état, où il y a une administration qui ne connaît pas l'hôpital. Je crois que il y a beaucoup de sociologues qui se sont penchés là-dessus pour expliquer que actuellement les personnes qui sont amenées à diriger les hôpitaux viennent d'une toute autre culture et ils ont réellement une grande difficulté à comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai j'ai la chance de travailler dans des grandes structures, mais aussi dans des petites structures. Là, j'ai une, ce qu'on appelait les réseaux, qui maintenant disparaissent, un réseau de soins palliatifs qu'on a mis tant de temps à créer, qui était une merveille, hein, je tiens à le dire, qui maintenant sont finalement rabattus vers des DAC. Alors, on appelle ça des dispositifs d'accompagnement à la coordination, où on leur demande de faire un petit peu tout. Un petit peu tout. Alors, vous connaissez le reste de la phrase. Hein. Donc, je vois là un directeur qui vient d'arriver. Il vient d'une administration qui est une administration publique qui s'occupait des affaires étrangères. Il ne connaît rien à la santé. Donc, heureusement, c'est une petite structure. Il a eu beaucoup de mal à entendre les médecins, les infirmiers, qui sont des gens qui ont une expérience extraordinaire, mais à comprendre la réalité de ce travail. Voilà. Et ça, malheureusement, je le vois en direct dans une petite structure comme celle-là, mais c'est aussi vrai dans des plus grandes structures. Et ça, ça fait le lit d'une mésentente complète. Qui plus est, pour terminer, hein, ces aspects de clivage, ça semble n'être qu'un mot, mais c'est extrêmement important. On ne se connaît pas. Hein. Il y a une telle souffrance sur le terrain que lorsqu'on peut s'épargner finalement l'émotion issue de cette souffrance, on va le faire. Et ça, par des mécanismes de défense qui sont mis en place, qui ne permettent absolument pas de se comprendre. C'est ça qui est terrifiant. Hein, dès qu'il y a du clivage, il n'y a pas de fumée sans feu, dites-vous qu'il y a de la souffrance quelque part. Et cette souffrance, elle est majeure, parce que c'est un mécanisme de défense qui est un vieux mécanisme très gourmand en énergie. Voilà.
Finalement, c'est... On parlait tout au début hein, de burn-out, de... Il y a le burn-out finalement personnel hein, de chacun des acteurs de l'hôpital, mais à vous entendre, j'ai aussi l'impression que c'est l'hôpital lui-même qui est en burn-out. C'est-à-dire que voilà, le clivage aussi entre les gens qui font l'hôpital, c'est toute la structure, c'est systémique finalement, que tout s'effondre.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, et je rejoins mon voisin. Le Covid n'a été simplement le détonateur du phénomène et a mis en évidence, a renforcé l'évidence, c'est que le métier d'infirmier est un métier pénible, déconsidéré, et je vais peut-être me faire pas que des amis, et sans doute non reconnu et voire méprisé par certaines personnes.
Pourtant, on disait tout à l'heure, voilà, c'est infirmier, c'est au moins 3 ans d'études, 5 ans pour ceux qui vont aussi aller plus loin. Donc c'est quand même loin d'être... voilà, c'est quand même un investissement. Bac plus 5, c'est pas rien dans notre société. Donc ça devrait quand même être reconnu un peu plus que... Je crois même que, enfin, socialement, si vous allez voir les gens dans la rue... ils vont avoir cette reconnaissance. La reconnaissance manque plutôt du côté institutionnel.
Tout à fait, mais la problématique, comme le dit mon voisin, c'est sans doute une problématique de gouvernance dans laquelle ne sont pas investis mes collègues et moi-même dans l'institution. Et ça, ce n'est pas faute de le signaler et de le réaffirmer.
On vous demande peu votre avis sur ces questions-là, comme par exemple le gouvernement. Vous n'êtes pas un interlocuteur comme peut être, par exemple, le Conseil de l'Ordre des médecins
L'Ordre des infirmiers est quand même une structure neuve par rapport à l'Ordre des médecins. L'Ordre des médecins, c'est 1945, si je ne me trompe pas. L'Ordre des infirmiers, nous sommes à 11 ans d'existence, avec quelques moult péripéties dans notre vie. Et un grand manque de soutien de notre institution de référence. Je me permets de signaler que quelques ministres nous ont décriés après nous avoir mis en place. Et maintenant, on commence à investir la place, mais notre voix est souvent... amoindri, moins perçu, camouflé par certaines autres, de certaines professions autres, ou certaines instances institutionnelles. Je suis resté fort diplomate.
Non, mais c'est important à dire, justement. Hein. Alors, voilà, on a fait le constat. Je sais pas, Marion, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ?
Oui, je veux juste rebondir sur ce qui vient... Je veux juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve que c'est quand même important sur la question du problème systémique et du manque de place des infirmiers. On a quand même un système qui marche sur la tête avec la tarification à l'activité à l'hôpital. Je pense que c'est important de mettre un petit warning sur ce. Là, pour le coup, on n'a pas été consulté à aucun moment, mais les infirmiers sont les premiers à dire que c'est quelque chose qui dysfonctionne complètement à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que la tarification à l'activité encourage des pratiques complètement maltraitantes, comme par exemple, on va être assez concret, mais une personne âgée à qui on va faire des examens, des scanners, des IRM, des personnes qui sont atteintes, des patients qui sont atteints de cancer, qui vont avoir des immunothérapies dans les semaines qui précèdent le décès. Donc tout ça, ça a un coût absolument faramineux. C'est encouragé par le système actuel avec la tarification à l'activité. Et c'est quelque chose que l'on dénonce à peu près, quotidiennement, les infirmières, on dit aux médecins, ça ne va pas ce qu'on est en train de faire, c'est maltraitant. On explique ça, mais personne ne nous entend. Alors que ça, c'est quelque chose qui a un coût absolument faramineux. Au-delà du coût humain, ça a aussi un coût financier. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour recruter, il n'y a pas d'argent pour nous augmenter, il n'y a pas d'argent pour ceci, pour cela, pour du matériel adéquat dans les différents services. Mais l'argent, il y en a. Donc ça, par exemple, dans les instances, si on était un petit peu plus consulté, je pense que ça serait des choses qui remonteraient de manière... certaines, puisque dans les départs et toutes ces fuites de soignants, il y a aussi ce sentiment de maltraitance au quotidien qui est encouragé par le système actuel, qui pèse assez lourd dans la balance.
Allez-y, Marc.
Oui. Merci. Peut-être pour continuer hein, sur cette thématique, moi je souhaiterais juste témoigner de... Je vais dans différents types d'institutions. Et c'est vrai, hein, puisque vous parlez d'argent, hein, alors bon, déjà, moi, je l'ai souvent dit, hein, j'ai vu hein, dans des institutions, au moment où la tarification à l'acte voilà, était mise en place, ça changeait tout à fait les relations entre les soignants et les soignés. Hein, c'est-à-dire qu'un soigné qui pouvait arriver, qui pouvait s'installer un petit peu, quelques temps, ne pouvait plus le faire. Donc, on voyait un pic d'angoisse qui était celui que vit toute personne qui arrive dans une nouvelle institution, mais ce pic d'angoisse n'avait jamais le temps de se calmer. Et donc, ce que commençaient à vivre les soignants, c'était des pics d'angoisse en continu, qu'ils devaient gérer en continu. Donc, vous imaginez bien que là, en termes d'énergie, en termes d'épuisement, c'est quelque chose de majeur. Alors, là aussi, je suis psychologue, hein, donc je ne veux pas politiser les choses, mais je ne peux dire que ce que je vois. Hein, j'ai supervisé également un certain nombre d'institutions qui sont à but lucratif. Disons les choses, hein, des institutions qui sont gérées par des banques en général plutôt anglo-saxonnes, hein, dont je dirais les noms évidemment, et ce que j'ai vu, c'est ni plus ni moins des horreurs. C'est-à-dire que lorsque le taux de remplissage, c'est comme ça qu'on parle des choses, hein, lorsque le taux de remplissage n'est pas de plus de 90%, alors on demande aux gens de se dépêcher, de faire rentrer des patients pour que ça tourne beaucoup mieux. Et c'est absolument horrible, on ne se rend pas compte, ce n'est même plus du travail, lorsque je voyais, moi, à un moment, je suis parti, j'ai dit les choses, j'ai dit, mais attendez, là, le département vous dit que oui, en effet, on manque de place pour accueillir des patients, donc vous allez mettre dans si peu de place encore plus de lits, alors qu'il y a déjà une surpopulation dans peu d'espace, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et les soignants sont toujours au même nombre. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est complètement fou. Bien sûr, sans jamais tenir compte de l'aspect relationnel qu'il y a entre un soignant et le patient. On n'a pas le temps. Lorsque le soignant est épuisé, il s'en va, on cherche à en trouver un autre. Ce n'est finalement qu'un chiffre, ce n'est qu'une place qu'il faut remplir. Donc, Et pour l'instant, j'ai vu la différence, vraiment, entre une institution qui est à but, c'est vrai, lucratif, on en a, bon, je ne vais pas en faire état, hein, mais je crois qu'on a entendu tous parler de certains EHPAD hein, à but lucratif, et il y a eu des horreurs, hein, où les dividendes étaient partagés alors même qu'il manquait un personnel, et c'était aussi là où il y avait le plus de taux de mortalité, hein, chez les personnes âgées. Donc, bon, on ne va pas le relater, mais c'est une réalité. Je le vois. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se voit et c'est manifeste. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Il suffit de fréquenter les institutions.
Alors, on a fait le diagnostic. On voit que le mal est profond. Quels sont les remèdes? Une remise à plat, est-ce qu'il faut remettre à plat tout le système? Mais que dans ce cas-là, comment on fait?
Je pense qu'il faut effectivement remettre à plat une grande partie du système, tant au niveau salarial, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un point que je développerai vu que ce n'est pas une mission de l'ordre, mais il faut aussi pouvoir maintenir le personnel en place et en attirer du nouveau. Et ça, c'est en reconnaissant le travail des professionnels de santé, en acceptant de chiffrer certaines activités qui, malheureusement, consomment beaucoup de temps, l'accompagnement, la discussion, la main tendue, et ça, malheureusement, pour l'instant, ça fait perdre de l'argent à l'institution. On ne peut pas faire de soins. Donc c'est pour ça que nous militons pour, entre autres, une reconnaissance et une valorisation de tout ce travail d'accompagnement, de coordination et une amélioration, une modification de notre décret pour pouvoir attirer et donner des perspectives à nos collègues et futurs collègues, pour les faire rester dans notre profession. Parce que comme je le disais en introduction, quand même, il y a 40% des infirmiers qui pensent en partir dans les 5 ans. Et ça, c'est un chiffre qui est rarement atteint dans d'autres professions. Voilà.
Pour compléter ce qui vient d'être dit là, il y a aussi un phénomène nouveau. Il y a un article qui est sorti là-dessus aussi qui explique qu'il y a énormément d'étudiants infirmiers qui démissionnent en cours de formation. Donc c'est quand même quelque chose pour vous dire à quel point c'est grave. C'est-à-dire qu'après leur stage à l'hôpital, ils se sont dit « mais c'est pas ça que je veux faire ». Eux avaient un projet d'humanité et ils se retrouvent dans une espèce de truc de rentabilité ou complètement fou où finalement ils se mettent à travailler à la chaîne. Ils ont été utilisés pendant la crise sanitaire comme des soignants confirmés alors qu'ils étaient étudiants et ils n'ont pas eu de formation, de réelle formation. Donc en fait, à partir même de ce moment-là, il y a une vraie crise de la vocation puisque sur le terrain, ce qu'on leur propose et ce qu'on leur montre n'est pas ce pourquoi ils ont décidé de faire ce métier. Moi-même, en 15 ans de carrière, j'ai vu le système s'effondrer littéralement. Quand j'ai commencé, les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Ma formation était une formation de qualité. Et aujourd'hui, quand je vois les étudiants et ce qui témoignent, enfin leur témoignage sur le terrain, c'est assez terrible. Donc ça commence à partir de là. Donc si on veut des solutions, je pense qu'il faut simplement en fait nous consulter les uns les autres. On a les soignants de terrain. Je pense que c'est de là qu'on va réussir à trouver les meilleures solutions.
C'est-à-dire qu'on a fait des choses sur les, il y a eu des avancées effectivement sur les salaires qui demandent, vous donniez le classement hein, tout à l'heure de d'où on en est dans les pays de l'OCDE. Donc s'il y a eu des progrès, on reste quand même plutôt dans la deuxième partie du peloton. Et puis il y a toute la partie des moyens. Qui sont donnés dans le travail, il y a le salaire, il y a les conditions de travail aussi, de faire en sorte que les conditions de travail soient au moins satisfaisantes, en tout cas permettent de faire un travail en accord avec ses propres valeurs, si je comprends bien.
Tout à fait, et en même temps de permettre une perspective de carrière. Comme disait ma collègue tout à l'heure, on est arrivé a pu avoir de formation parce que on a plus le temps à consacrer à dégager un agent du service pour aller en formation. On n'a plus le temps, on n'a plus les moyens. Alors on vous dit, on vous donne un accord de formation de principe et deux jours avant on vous dit ah je suis désolé, je n'ai pas le personnel pour te remplacer, il faut m'assurer la continuité de service, tu restes. Or l'État met quand même en place des textes réglementaires sur le développement professionnel continu depuis plus de 8 ans actuellement, avec une obligation triennale de formation qui est peu ou pas respectée, et va bientôt mettre en place la recertification du personnel, c'est-à-dire que tous les 5 ans, il y aura une réévaluation pour savoir si on est encore au niveau pour donner des soins corrects. Et là, se pose la question de, oui, on va évaluer les gens, mais il faut se donner les moyens de former et d'accompagner l'évolution du monde de la santé.
C'est-à-dire qu'on va réévaluer les gens, voir s'ils se sont, s'ils sont toujours au niveau, mais au sans niveau. Leur avoir donné la possibilité de se former.
Actuellement, oui.
Alors, peut-être dans cette veine, dire que, justement, alors je réfère Ita, moi, simplement, de ces théoriciens hein, qui proposent des modèles épidémiologiques pour lutter contre le stress. Et ça va complètement dans le sens hein, de ce que dit monsieur. Hein, c'est-à-dire que un des de ces scientifiques, hein, Sigrist, qui est bon, quelqu'un qui est mondialement reconnu, hein, propose trois composantes. La première, c'est l'estime. C'est l'estime. Si on veut faire baisser le stress, il faut que la personne se sente estimée. L'autre, c'est le statut. Hein, donc je n'invente rien, hein, c'est pas pour chercher. L'autre, c'est vraiment le statut. Mais donc, il faudrait que les formations qui sont proposées soit des formations qui permettent également une modification du statut. Hein, c'est-à-dire que fut un temps, enfin moi j'ai fini, hein, quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, hein, on pouvait commencer aide-soignante, et puis petit à petit, par expérience, on pouvait devenir infirmier, infirmière, et puis un jour même cadre. C'est-à-dire un ascenseur social. Et bien ça, bizarrement, cette modification du statut, ça agit et ça permet de lutter contre le stress. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Hein, Et enfin, évidemment, la gratification monétaire. Hein, ça paraît simple, mais quelqu'un qui est en libéral et qui, en travaillant, accumule plus d'argent, finalement, supporte mieux le stress que quelqu'un qui travaille plus encore avec moins de moyens et surtout moins d'argent. Voilà. Donc ça fait partie des grandes théories hein, qui concernent la lutte contre le stress. Hein. Alors, peut-être juste un dernier point hein, qui va toujours hein, dans ce que propose hein, finalement ces deux professionnels, hein, c'est également quelque chose qui a trait finalement au degré d'autonomie. C'est une personne qui, plus on lui demande une tâche importante, plus il faut lui donner un degré d'autonomie pour qu'elle puisse organiser elle-même son travail. Ça paraît des choses mais, très simples, mais lorsque vous avez un aide-soignant qui vous dit « Bon voilà, ma cadre m'a dit, j'ai 10 toilettes à faire le matin. » Bon, d'accord. Tu commences par la chambre 1, 2, 3, 4. Mais non, c'est dommage. Je les connais, ces gens. Il vaudrait mieux que je commence par telle chambre, telle autre, et puis je terminerai avec ce patient-là. Je sais que mon organisation sera meilleure, je me fatiguerai beaucoup moins. Mais non, on ne lui laisse pas le choix. Il n'a pas voix au chapitre. Ce sont des choses parfois extrêmement simples. Mais justement, plus on demande une tâche importante, plus il faudrait accorder une autonomie. Et enfin, bien sûr, la prise de décision, qui serait une prise de décision qui se fait en concertation avec les premiers concernés, en termes d'organisation. Ça aussi, ça participe à la lutte contre le stress. Ce sont des points simples. Oui, absolument. Bien sûr. Absolument.
Peut-être. Vous voulez rebondir sur cette Marion.
Juste. De reconnaissance. Moi, je pense que vraiment, un des points essentiels, comme vous disiez tout à l'heure, une aide-soignante qui devient infirmière, puis cadre, peu importe la direction qu'elle souhaite prendre, je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait simplement une filière universitaire complète, c'est-à-dire qu'une infirmière qui fait un master de sciences infirmières puisse aller faire un doctorat de sciences infirmières derrière. Quand on aura obtenu cette possibilité de faire un doctorat ici en France, je pense qu'on aura cette possibilité d'évolution de carrière qu'on n'a toujours pas et qu'on demande depuis des années et qui existe à l'étranger. Donc je pense que la reconnaissance, elle commence par là et l'autonomie également. En termes de recherche, je pense qu'on a beaucoup à faire et beaucoup à dire.
Je ne sais pas si tout le monde a quelque chose à rajouter encore, ou bien, parce que dans ce cas-là, je vais passer la parole à notre ami François Hevé pour une conclusion de cette partie qui est diffusée par nos amis de RCF.
Oui, merci pour ces interventions et ce tableau qui est évidemment lourd. Et même s'il y a quelques signes d'espoir à la fin qui peuvent sembler raisonnables, j'aimerais rappeler ce que mentionnait Bruno Sainteau dans son introduction, à la fin de son introduction, sur ce qu'il appelait le projet de solidarité de 1945. Cette mise en place de la sécurité sociale, ce sentiment dans l'après-guerre d'une union nationale, d'une solidarité de toutes les composantes de la nation. Solidarité dont on a pu revoir une expression évidemment provisoire dans les célèbres applaudissements du 20h au moment du confinement. Mais qui justement ne fait que mettre en relief, en contraste, la dégradation de la situation depuis lors. Donc, retrouver cette solidarité collective, retrouver ce sens du collectif et de la place de chacun dans ce collectif, voilà un premier horizon. Je relève dans les interventions ce qui a été dit autour de la reconnaissance. Je voudrais peut-être davantage mettre en valeur le mot de considération. Ce que disait Marc Guillaume à propos de la lutte contre le stress, l'estime des personnes. Cette considération, elle est importante en ce qui concerne les malades, les patients, les prendre en considération. Ça peut paraître tout à fait élémentaire quand on est soignant. Mais aussi la considération des soignants eux-mêmes. On voit bien que ce qui fait difficulté, c'est le passage d'un mode de fonctionnement qui prend en compte les personnes à ce que le juriste Alain Supiot appelait la gouvernance par les nombres, c'est-à-dire une gouvernance finalement anonyme. Il est quand même assez étonnant de voir que la direction des établissements de santé et le fait de personnes qui sont totalement extérieures au monde de la santé. Ça peut paraître quand même, pour quelqu'un qui est lui-même extérieur au monde de la santé, un peu étonnant. Et donc il n'est pas surprenant que ce qui prime soit une logique de fonctionnement, une logique, sans vouloir trop caricaturer les tableaux, mais quand même c'est ce que j'entends dans vos propos, une logique administrative qui l'emporte sur la prise en compte des personnes dans leur singularité. Dans le même sens, je souligne ce que disait Raphaël Lagarde en terminant son intervention sur l'importance de l'autonomie et ce qui a été repris ensuite. On sait bien dans différentes professions, on pourrait dire dans toutes les professions à certains égards, faire confiance dans les capacités des personnes à savoir ce qui est bon dans leur métier est un élément contribue simplement non seulement à l'épanouissement des personnes mais aussi à l'efficacité du soin. L'exemple qui était cité effectivement est très simple à comprendre. Quand le soignant a davantage d'autonomie, d'abord on lui fait plus d'estime, plus de confiance dans ses capacités. Et donc, un cercle vertueux peut se mettre en place, par contraste avec le cercle vicieux du stress qui a été largement présenté tout à l'heure. Donc, il semblerait, écoutez vos propos, il semblerait que une voie de sortie n'est pas si compliquée que ça, finalement, au moins à comprendre intellectuellement. Je ne sais pas, après ça, à mettre en œuvre, c'est autre chose, mais ce qui a été dit en termes, encore une fois, d'estime, je vais peut-être mettre... J'ai voulu mettre peut-être l'accent davantage sur ce point-là, aussi bien sûr sur le statut et le salaire, ce sont des choses qui ne semblent pas très complexes à mettre en œuvre. Je dois juste terminer en soulignant peut-être l'importance de la profession, cette profession qui peut paraître intermédiaire, des infirmiers et infirmières. peut-être le monde de la santé, on connaît bien, on sait bien l'importance des médecins, évidemment, il ne s'agit pas de d'en dénier cette importance, mais aussi on pourrait facilement considérer les infirmiers, et encore peut-être davantage les aides-soignants, dont on a peu parlé ce soir, mais qui ont aussi évidemment leur rôle dans cet ensemble, comme des courroies de transmission. Or justement, ce qui a été souligné, et ça je crois que c'est important de le répéter, c'est que la profession, Marion Bock l'a bien dit, cette profession d'infirmier-infirmière a sa consistance propre, qui n'est pas simplement d'exécution de schémas reçus de plus haut. Et l'importance, effectivement, de développer cette profession par un travail de recherche. C'est assez étonnant de voir qu'il n'y ait pas, vraiment de vraie recherche dans ce domaine-là. Ça peut paraître très surprenant. Enfin, tout travail, toute profession qui a sa consistance s'accompagne d'instances de recherche. Ça peut paraître là aussi élémentaire. Enfin, sentiment parfois qu'on enfonce des portes ouvertes. Donc, je crois que c'est important de souligner, compte tenu, encore une fois, de la gravité de la situation, de la gravité de la crise, depuis longtemps. Là encore, on peut s'étonner de voir que depuis des années, le signal d'alarme est tiré, que relativement peu de choses sont faites. Moi, je suis plus familier personnellement des questions d'écologie, on pourrait dire la même chose, des années que le signal d'alarme est tiré et des années que très peu de choses se font. Faudra-t-il arriver à des catastrophes majeures pour qu'une vraie réforme advienne? Bon, là encore, je ne voudrais pas faire des comparaisons avec un autre domaine qui est aussi familier que le domaine de l'Église. Faudra-t-il arriver à des catastrophes majeures pour qu'une réforme soit faite? J'espère que non, mais encore une fois, l'histoire, malheureusement, nous enseigne le contraire.
Merci beaucoup. C'est terminé donc pour cette partie des mardis d'éthique publique qui sont retransmis par RCF. On va passer maintenant à un temps d'échange entre nous, avec les participants qui sont ici avec nous dans la salle. Il y a un micro qui va...
C'est sensible. Oui, mais même la table.
Je vais me permettre juste de rebondir sur quatre points que vous avez cités et que je partage. D'abord sur le côté, ça fait longtemps qu'on se bat. Oui, mais... comme vous l'avez dit, ni bonne ni conne, mais quand vous êtes un non, mais on y revient à peu près. Je dirais que quand vous vous êtes investi dans cette profession, tant vous que mes collègues autour de la table, vous avez du mal à dire stop. Moi, l'année dernière en réanimation. Je suis passé de... J'ai quitté mon bloc où je faisais 140-160 heures par mois et je suis arrivé à faire 240 voire 300 heures en réanimation. Je ne me voyais pas dire stop. Je suis désolé, vous avez un malade en face. Je ne vais pas m'arrêter de le soigner. Et ça, c'est malheureusement une situation sur laquelle une certaine partie de l'institution appuie. Vous verrez personne dire stop. Donc, on s'est adapté. J'ai des collègues qui... on a diminué le nombre d'infirmières dans les services. On leur a dit, bon, avant, vous étiez 2 du matin, 2 d'après-midi. Là, on a besoin de récupérer 2 infirmières. Alors, on en prend 2. Et celle du matin va faire une amplitude horaire plus adaptée, plus longue. Celle d'après-midi va venir un peu plus tôt le matin. Et aux deux extrémités... Vous serez seul, mais il y aura quelqu'un. Et vous ferez. Et on l'a fait. Parce qu'on a notre conscience professionnelle.
Sauf que vous ne dites pas stop, mais il y a un moment où le corps, le mental dit stop, tout seul. Sans que... quand ça craque, quand il y a burn-out, quand il y a
mais c'est
quand
pour les gens ça s'effondrent. Que maintenant, je dirais en post quatrième vague, on a ce que je pourrais appeler un effet rebond où les professionnels en ont marre. Et là, il y a aucun accompagnement, aucune considération, comme le signalait mon collègue à ma droite. Deuxième chose, vous signalez qu'il y a une universalisation de la profession, licence, master, doctorat, des maîtres de conférences. Oui, mais on est encore dans la plupart des cas, sous le giron d'une faculté et généralement une faculté de médecine. Et on retombe sur ce que je signalais et ce que l'ordre met en avant, c'est qu'il nous faut, à un moment ou à un autre, avoir notre indépendance. On doit être doué d'une faculté, d'une autonomie supervisée, mais autonomie présente. On réfléchit. Je n'ai pas fait 5 ans d'études pour avoir quelqu'un derrière mon dos qui me dit « fais ci, fais ça ». Et la preuve, c'est que dans mon bloc opératoire en tant qu'infirmier anesthésiste, le médecin anesthésiste, je ne vais pas le chercher pour lui demander ce que je fais avec mon malade à tout bout de champ. Je maintiens la prise en charge de mon patient. Et quand je suis conscient que mes connaissances ne me permettent plus de gérer la situation, je fais appel au médecin. Et il faut qu'on puisse, comme vous le dites, sortir de cette omniprésence médicale qui règle tout. Actuellement, il faut que l'infirmier acquiert son autonomie. Et comme le signalait ma collègue à la tribune, il faut qu'on fasse de la recherche, qu'on la publie et qu'on conceptualise nos soins. Troisième point sur lequel je rebondis, vous dites le temps d'accompagnement, de formation, de tutorat est peu ou pas reconnu. C'est vrai. Et encore plus vrai, plus vous avancez dans la formation. Parce que si je me rappelle bien, quand vous êtes tuteur d'étudiants infirmiers et n'y voyez pas de classification de la profession, mais quand vous accompagnez un étudiant qui débute sa formation d'infirmier, vous avez un peu de temps, voire une revalorisation dans certains établissements. C'est ce que l'assistance publique signifie, entre autres sur Paris. Or, après, plus vous montez, exemple, le bloc opératoire pour les infirmiers anesthésistes, nous n'avons même pas cette reconnaissance et cet accompagnement. Et dernier point, c'est le fait que actuellement, la profession est tellement épuisée qu'on n'arrive même pas à revendiquer et à aller de l'avant. On pense d'abord à se protéger, à trouver une solution pour être encore là demain, et après on se dit, on verra.
Juste un tout petit point, parce que je crois que je me suis mal exprimée tout à l'heure, où il y a eu une petite incompréhension sur le cursus et le parcours des infirmiers. Aujourd'hui, certes, il y a effectivement des infirmiers qui sont docteurs, et qui sont enseignants-chercheurs, mais de formation, ils ont fait un doctorat de santé publique, ils ont fait un doctorat de sciences humaines et sociales, enfin, ils ont fait tout plein de branches, mais il n'y a pas de doctorat de sciences infirmières en France, il y en a au Canada, il y en a dans d'autres pays, y compris en Suisse, juste à côté. Donc c'était ça mon propos, j'essayais de... Voilà. Mais...
Les filières.
Je peux rebondir à chaud tout de suite. Deux choses par rapport à la première que vous disiez sur l'informatisation. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit dans notre fabuleux outil Orbis, là où on a plein de cases à remplir et des tonnes de trucs à mettre qui ne servent à rien et l'essentiel n'y est pas, on se rend compte que les soignants qui ont encore le temps, enfin ceux qui le prennent peut-être en dehors de, à la fin de leur journée de travail et qui font, qui écrivent dans le dossier. Je trouve ça intéressant parce qu'on a une espèce de truc, là, dossier infirmier, données, actions, résultats, d'art, là, nos transmissions où tout est pré-cliqué. Enfin, on n'a plus qu'à cliquer pour remplir douleur, là, qu'on a fait ça, ça, ça. Et ben, il y en a quasiment pas qui le font. Et les infirmières, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des transmissions narratives. Heureusement, le dossier permet d'aller ouvrir une autre case et de raconter un peu ce qui s'est réellement passé dans la journée. Et donc, celles qui prennent encore le temps écrivent dans les transmissions narratives et ne font pas du donner, action, résultat. Parce que c'est ça qu'on nous demande, nous, de faire donner, action, résultat. Et déjà, rien que là, il y a un gros problème. Et je trouve que c'est intéressant de voir, on pourrait mener un petit travail de recherche là-dessus, sur comment les infirmières font pour transmettre les éléments essentiels. Je dis infirmières, j'englobe effectivement, et d'ailleurs dans les soignants, je suis la première à dire que soignant égale médecin, infirmière, aide-soignante. Je ne l'ai peut-être pas assez dit ce soir, mais je suis d'accord, les médecins sont des... Effectivement, les médecins sont des soignants, on est d'accord. Et sur le deuxième point, par rapport aux motivations, moi je pense que ce qui est important dans la progression, alors ce n'est pas forcément pour devenir cadre, parce qu'il y a de moins en moins d'infirmières qui ont envie d'être cadre, en fait, quand elles voient ce qu'on leur demande, c'est-à-dire passer des journées à faire des plannings, à essayer de boucher les trous, de remplir tous ces manques de partout, et à être elles aussi en burn-out. Hein. Moi j'en ai plein dans mon hôpital qui sont en burn-out, du fait de ce qu'on leur demande et qui est impossible à faire concrètement. Mais sur la recherche, justement, je parlais tout à l'heure, première partie de l'expertise infirmière qui est vraiment intéressante. Moi-même, j'ai mené pendant mon master de recherche un travail complet sur... j'ai travaillé sur la participation des proches à la toilette mortuaire en service hospitalier. Et ce travail-là a mené à la production d'un ouvrage. Donc, en fait, comment on peut faire changer, modifier, évoluer nos pratiques? C'est en les questionnant et en faisant de la recherche, comme au même titre que les médecins. Et c'est vrai que la recherche paramédicale est vraiment autre en termes de résultats que la recherche médicale est beaucoup plus... elle est différente. C'est deux expertises, finalement, très différentes. Et, je pensais plutôt dans ce cursus à ça... pas forcément à vouloir fuir un réel, puisque de toute façon, moi-même, hein, je suis la première à avoir essayé désespérément d'obtenir un temps de recherche tout en gardant le pied dans la clinique, parce qu'on ne peut pas être chercheur sans être sur le terrain. Donc je pense que les deux sont aussi importantes. Et donc c'est ça le but final de cette universitarisation. Pas facile.
Alors pour vous répondre, je dirais que il y a des relations qui existent entre nos deux ordres. Corps diplomatique, on va le dire comme ça. Sur certains points, on coopère. Exemple, l'entraide, le développement de la prise en charge des détresses psychologiques. Actuellement, il y a un travail qui a été mis en place par nos deux ordres, avec malheureusement une distinction sur les deux systèmes de traitement, mais à la base, la réflexion était la même. Après, comme je disais, il y a malheureusement très rapidement des problèmes de gouvernance, on va le dire comme ça, et très souvent, le monde médical, je suis désolé de le dire, prend le dessus quand même et a plus d'appui politique. Vous avez quand même une force de lobbying qui est plus considérable que la nôtre, malgré que nous soyons légèrement plus nombreux que vous. Mais si je me rappelle bien, à l'Assemblée nationale, vous devez être une grosse quinzaine. Alors que il y a trois infirmières présentes. Voilà.
Ou est-ce qu'il joue en défense, justement? Il a peur de se faire prendre quelque chose.
Je dirais qu'il y a du pour et du contre. Comme disait ma collègue, sur le point de l'infirmière de pratique avancée, beaucoup de gens ont du mal à accepter que l'infirmière passe à l'étape de « je peux réfléchir, je peux prescrire certains examens pour décharger le médecin de certaines prises en charge de maladies chroniques très spécialisées et qui sont très approfondies dans la filière de pratique avancée, vu qu'il y a 4 grands domaines actuellement qui sont en pratique avancée. L'infirmière de pratique avancée ne doit pas être vue par le monde médical comme je vais arriver pour vous piquer votre boulot. On est là pour vous, en quelque sorte, faciliter certaines tâches et vous libérer du temps sur certaines tâches pour que vous puissiez le réinvestir sur ce que nous, on ne pourra jamais faire. Et le médecin en face a beaucoup de mal à le reconnaître, surtout, comme disait mon collègue à ma droite, quand vous allez dans les structures privées où il y a la tarification et quand vous dites, quand vous mettez en avant que l'infirmière va pouvoir faire certains gestes comme un médecin, et là le médecin vous dit, oui, mais si ça se passe comme ça, la Sécu va regarder, et pourquoi on paierait l'acte fait par un médecin à un tarif, l'acte fait par un infirmier à un autre tarif, et là, bizarre. Moi, je vous donne juste un exemple au point de vue de l'anesthésie. Dans mes études, on m'a appris la technique de l'arraché anesthésie, on m'a appris les médicaments de l'arraché anesthésie, les effets secondaires, etc. Mais je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de faire le geste. Or, je pense qu'avec quelques actes de pratique accompagnés et peut-être un réajustement, n'y voyez pas une volonté d'envenimer le débat, mais je pourrais faire le geste. On me confie bien le geste de l'anesthésie générale sur des patients stables sur lesquels vos collègues et confrères ont posé ce qu'on appelle une stratégie d'anesthésie. Et comme je le disais précédemment, je suis doué de raison et quand je ne sais pas faire ou quand je me sens dépassé, je tire la sonnette et je vais voir le professionnel qui est plus compétent que moi. Et c'est ce que fait ma collègue de pratique avancée. Quand elle est devant un examen qui lui pose problème, elle va voir la personne au-dessus.
Juste pour aller dans ce sens-là, moi, j'ai fait un petit papier là, qui est sorti dans Médecine palliative à ce sujet sur la naissance que j'espère un jour des infirmières de pratique avancée en soins palliatifs, puisque c'est mon domaine de compétence. Je suis infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. Je passe mes journées à aider les médecins des différents services à prescrire les thérapeutiques adaptées pour leurs patients qui sont en fin de vie. Ils ne savent pas faire. Alors, il n'y a pas de volonté réelle non plus d'apprendre à faire. Mais cela dit, c'est ce que je fais toute la journée. Donc, moi, je demande juste qu'on mette un cadre et qu'on admette, franchement, qu'il y a des infirmières dans des domaines bien définis qui ont des compétences qui permettraient qu'on mette un peu la lumière sur ces pratiques dites avancées. L'infirmière de pratique avancée, elle pourrait faire des consultations, recevoir des patients, réévaluer, reconduire des prescriptions, notamment les antalgiques, qu'elles savent quand même particulièrement bien gérer. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on est en capacité de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir docteur. Ce n'est pas le projet. Ce n'est pas le même champ de compétences. Ce n'est pas la même expertise. Ce n'est pas le même métier. Mais sur des domaines bien définis, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait déjà, en fait. On voudrait juste que ça évolue. Voilà, qu'il y ait un cadre autour de ce qu'on fait tous les jours.
Alors, ça sera le mot de la fin, Marc. Allez-y.
Non, enfin, effectivement, ce serait peut-être un petit peu trop long, hein, mais je trouve que ce qui s'est dit là est assez caractéristique. Moi qui suis un peu peut-être le Huron à la cour du roi, ou Candide qui passe, ou encore les lettres persanes, hein, et je regarde un petit peu à droite à gauche, dans ce monde qui n'est pas le mien, moi je suis psychologue, hein, finalement, je me promène parmi les médecins, les infirmiers, etc. Ce que l'on voit, c'est quand même, d'abord, en effet, j'ai tenu à parler des médecins parce que vous baignez dans les mêmes eaux et vous souffrez la même chose. Hein, et pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est que ces rivalités, ces conflits, il faut dire les choses, sont usantes. Hein, moi, je suis toujours étonné de voir un service où les gens travaillent ensemble et où pourtant il y a des clivages absolument extraordinaires entre d'un côté les médecins et de l'autre côté les infirmiers, infirmières, alors même qu'on peut les inviter à une même table, ils ne viennent pas. Il y a quelque chose à comprendre. J'ai pas repris les choses, mais je pense qu'il y a un point focal qu'il faudra pouvoir travailler en profondeur, c'est la culpabilité dans cette profession. Hein, ça, je ne l'ai pas repris lorsque j'ai entendu monsieur dire, bah oui, on ne peut pas s'arrêter, il y a toujours un patient, on ne s'arrêtera jamais. Et bien sûr que la pression est faite sur des aspects de culpabilité, et tant que cette culpabilité ne sera pas travaillée, vous ne pourrez même pas partager le travail. Parce qu'effectivement, on aura toujours peur de déléguer à l'autre, peur que l'autre ne fasse une faute et qu'on ne se sente responsable de la mort d'un patient. Donc, ce sont des choses profondes qu'il faut pouvoir travailler, parce que sinon, le clivage va continuer. Et là, on le voit. Alors moi, j'ai entendu hein, dans ces services, hein, finalement, infirmier-médecin, c'est un mariage de raison. Et en effet, c'est un mariage... Ah, j'ai entendu cette expression, elle n'est pas de moi. Hein. C'est un mariage de raison, hein, j'ai entendu plusieurs fois. Hein. Oui, un mariage de raison, on fait avec. Mais par contre, en termes d'affect, on fait aussi avec. C'est-à-dire qu'il y a des séparations affectives extrêmement profondes. Et ça, il faut le travailler. Parce que si il n'y a pas une unité qui se crée là, alors il y a de la dislocation. Et là aussi, ça participe de l'éclatement d'une équipe. Et donc, les gens ne peuvent pas rester parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer les uns sur les autres. Quand on est dans un combat, il faut pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Il faut pouvoir faire confiance à l'autre. Et ça, cette dimension de confiance, malheureusement, il arrive qu'elle soit perdue. Hein. Et ça se travaille en profondeur. Voilà, hein, je voulais juste remettre un petit peu le curseur sur ce niveau plus intime de la vie des équipes.
Alors, ça sera le mot de la fin. Je laisse peut-être à Bruno Santo soin de vous dire au revoir.
Voilà, un très grand merci de vos participations. Alors, à la fois tous les intervenants autour de la table ici et puis les personnes dans l'assemblée ici. Merci de votre engagement pour le soin. Merci de votre contribution à la réflexion. On a vu qu'il y a des écueils. Il y a quand même des pistes. Moi, j'entends qu'il y a des pistes de travail. Et puis, moi, j'insisterai sur le fait qu'il y a comme une occasion aussi de publiciser, en fait, tout ce que vous venez de dire. Alors, j'espère que la radio le fera. Voilà. Je suis frappé quand même du contraste entre un constat dramatique et finalement une conscience sociale et politique finalement pas si éveillée que ça. Vous voyez, ce contraste-là me marque beaucoup. Même avec des articles dans les journaux, vous voyez. Oh, ils vont résoudre le problème, n'est-ce pas ? Et c'est une petite crise passagère, mais on va résoudre le problème. Voilà, donc merci de votre engagement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. J'espère qu'aussi la présidentielle sera l'occasion pour élaborer un véritable projet de société qui soit un projet de soins solidaires, parce qu'on en a besoin de réactiver cela avec tous les problèmes que vous avez très bien mentionnés autour des dérives de la T2A. Elle n'était pas faite pour ça, mais il y a eu des dérives. Donc, merci d'avoir pointé un certain nombre d'éléments. Mais il me semble que la prise de conscience collective, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui vous ont applaudi, mais quand il s'agit de changer les choses, ou peut-être nous-mêmes de verser plus de choses autrement, vous voyez, que l'argent n'aille pas au même endroit, là, il y a quand même une prise de conscience qui, à mon sens, doit être une prise de conscience politique plus forte. Et moi, j'espère que la présidentielle sera... J'espère qu'on y travaille à notre manière. C'est une prise. Je suis peut-être un peu naïf, je vous vois dans votre regard, mais voilà que ça sera une occasion de poser au moins cette problématique-là de manière plus large. En tout cas, grand merci à vous et merci à tous les soignants qui sont dans la salle et qui continuent à le faire. Bon courage à vous et merci de votre engagement.
Tant que les infirmiers, ils font grève.